voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Fermera, fermera pas. Dans un instant, nous parlerons des divergences qui opposent ONU et gouvernement burundais à propos du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi avec nos invités qui patientent déjà en ligne. Merci à vous d'être là. Dans l'immédiat, nous vous proposons d'écouter l'analyse de notre invité sur les difficultés du dialogue politique en Côte d'Ivoire pour tenter de mettre fin à la violente crise post-électorale. On se retrouve dans un instant.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Arsène Brice Bado, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes enseignant de sciences politiques au CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en ligne d'Abidjan. Le dialogue annoncé entre opposition et pouvoir est suspendu avant même d'avoir commencé. Le président du PDCI, Henri Conan-Bédier, pose ses conditions, parmi lesquelles la libération des membres de l'opposition encore en détention. Les demandes de M. Bédier, d'après vous, sont-elles compréhensibles?
Oui, c'est vrai, c'est une situation un peu délicate. Je peux comprendre effectivement sa demande que ses compagnons de lutte puissent être libérés afin de participer au débat. Oui, ça c'est compréhensible. Je pense que c'est compréhensible, surtout dans la recherche justement de la paix, une situation justement politique difficile dans laquelle les uns et les autres sont impliqués. Et ça peut se comprendre.
Et que dites-vous de la réponse du pouvoir du RHDP qui parle de chantage de la part de M. Bédier?
Je ne vais pas vraiment juger ce qui vient de se dire, mais honnêtement, je pense que pour la paix, il faut justement que chacun fasse des concessions, qu'on retrouve justement le principe du compromis qui demande justement à chacun de faire une concession justement pour qu'il y ait la paix.
Quelles peuvent être ces concessions?
Oui, par exemple, accéder à la demande de l'opposition à la libération de ceux qui sont emprisonnés. Si ça peut faciliter le dialogue, il me semble que c'est un moindre mal. Et peut-être que ce dialogue permettra justement de résoudre même les crises, la crise en cours. Je pense que c'est vraiment important de rétablir justement le dialogue. Et ces personnes, je pense que c'est ceux de l'opposition qui sont actuellement emprisonnés font partie des pièces maîtresses aussi du dialogue.
Et je vois qu'il y a notamment le vice-président du PDCI, le professeur Maurice Guikawé, parmi ces personnes arrêtées, ou le président du FPI, Pascal Lafinguessan.
Effectivement, c'est quand même des pièces maîtresses importantes justement de ce dialogue-là. Sinon, un dialogue avec Henri Conan-Bédié seul, il me semblerait qu'il y aurait quelque chose qui manquerait. Et cela peut fragiliser encore justement le compromis qui pourrait naître de ce dialogue-là.
Mais le pouvoir estime aussi que les personnes arrêtées sont coupables de plusieurs actes de violence. Alors que fait-on de la justice?
Oui, c'est justement là la grande difficulté justement qui appelle à la recherche d'un compromis, parce que le problème n'est pas que une question justement de justice, c'est une question de politique d'abord. Et c'est important justement que l'on puisse faire la distinction entre ces deux niveaux-là. C'est d'abord une crise politique. Il est important justement de la résoudre de façon politique à travers justement la négociation. Et la justice peut venir plus tard, ça n'exclut pas. Oui, pour ma part, actuellement, dans l'état actuel, il faut plutôt réinstaurer justement le dialogue. Et là, c'est vraiment un acte plutôt politique. La justice pourrait venir plus tard, mais c'est vraiment important de restaurer le dialogue. Et là, c'est le compromis politique qui va sauver justement la situation, et non pas justement une décision de justice actuelle. Et ça c'est vrai. Et ça ne veut pas dire que les victimes, qu'on ne prend pas les victimes au sérieux. Non, dans la résolution justement d'une crise, c'est important justement de savoir, de bien analyser la crise, de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit.
Les déclarations de Emmanuel Macron, qui a notamment félicité Alassane Ouattara et défendu sa candidature à un troisième mandat ont-elles pu, d'après vous, peser dans l'attitude du pouvoir ivoirien et qui est celle de l'intransigeance?
Bon, je n'ai pas tellement suivi le contenu justement de la déclaration des félicitations. J'ai dû lire aussi dans les journaux que le président Macron a félicité le président Alassane Ouattara pour son élection. Je crois d'autres présidents aussi.
Les autres chefs d'État ont félicité Alassane Ouattara sans justifier son troisième mandat, comme l'a fait Emmanuel Macron.
Enfin, je n'ai pas tellement... Oui, à mon sens, ce n'est pas une question qui m'a vraiment intéressé, donc je n'ai pas vraiment réfléchi à la question.
Arsène Brice Badeau, merci, enseignant de sciences politiques au CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Merci.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Place au débat et notre thème ce soir porte sur les divergences entre les Nations Unies et le gouvernement burundais sur l'avenir du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays. Nos invités sont en ligne. Il s'agit de Madame Inès Sonia Niumbawe, qui est directrice de communication et porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Burundi. Madame, bonsoir. Merci d'être avec nous. En ligne également de Bujumbura, Aimé Maguera, porte-parole international d'Agathon Rwasa, président du parti CNL, Congrès national pour la liberté, qui est en ligne plutôt à Bruxelles. Bonsoir, monsieur Maguera.
Bonsoir.
Également à Bruxelles, Jean Minani, président du CNARED, c'est le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et l'état de droit, le CNARED, c'est l'opposition en exil. Alors madame, je vais commencer d'abord par une remarque. Traditionnellement, le gouvernement burundais refuse toute invitation à débattre avec les opposants, notamment le CNARED. Qu'est-ce qui a fait que le ministère, le gouvernement burundais change d'avis aujourd'hui? Nous en sommes heureux d'ailleurs.
Je vous remercie pour l'invitation. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement et non au nom du gouvernement du Burundi. Et c'est toujours un plaisir de débattre.
Allô, madame Niumbawe?
Oui.
Allez-y, oui, allez-y, s'il vous plaît. La ligne n'est pas très nette avec Bujumbura, mais allez-y, s'il vous plaît.
Je vous remercie. Je vous disais que je suis en train de répondre au nom du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et du développement, et non au nom du gouvernement, mais que je suis toujours, c'est toujours un plaisir de débattre.
D'accord. Mais habituellement, ça n'a pas souvent été le cas. C'est un changement d'attitude plutôt importante. Important, pardon.
Oui, je vous remercie.
C'est un signe d'ouverture?
Le gouvernement a toujours été ouvert, et surtout le ministère des Affaires étrangères de la coopération et du développement.
Alors, madame, on va donc entrer dans le vif du sujet. Votre ministère, dans sa note verbale adressée aux Nations Unies, indique que la situation politique aujourd'hui est normale et qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Vous maintenez cette position et selon laquelle il n'y a plus de crise dans votre pays?
Effectivement, madame, je peux vous rappeler surtout à nos auditeurs le contexte dans lequel le bureau de l'envoyé spécial était né. C'était après la résolution de 2248 en 2015 qui avait été votée juste après l'insurrection de 2015. Donc, c'était juste dans le contexte d'aider le gouvernement du Burundi à trouver une solution à la crise qui était au Burundi. Après que le mouvement insurrectionnel qui visait le renversement par des moyens anticonstitutionnels des institutions démocratiquement élues au Burundi. Aujourd'hui, je crois qu'avec avec l'évolution des temps, il n'y a plus de crise. De prétendue crise. C'est pourquoi alors le gouvernement estime qu'il n'y a plus besoin qui est un bureau de l'envoyé spécial, surtout en ce qui concerne les affaires politiques du pays.
Et vous maintenez que le bureau sera fermé au 31 octobre 2021.
Effectivement.
Au 31 décembre, s'il vous plaît, 2020.
Oui, 31 décembre 2020.
D'accord. On verra tout à l'heure comment cela va se négocier avec les Nations Unies. Est-ce que Jean Minani, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Comment qualifieriez-vous la situation politico-sécuritaire aujourd'hui au Burundi? Madame le porte-parole affirme qu'il n'y a plus de crise au Burundi.
Pour moi, la crise reste parce qu'il n'y a pas encore de solution par rapport à la crise qui se passe depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition sont en exil. Il y a plusieurs centaines de milliers de Burundais réfugiés. Il y a toujours les mêmes problèmes qu'il y avait au temps du président Nkurunziza et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Lesquels problèmes nous avons toujours dénoncés. Et donc, les problèmes restent. Il n'y a pas d'ouverture de l'espace
donc
politique.
Donc vous considérez qu'avec l'arrivée du président Évariste Ndayishimiye, il n'y a pas eu de changement, de légère amélioration de la situation politique?
Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune amélioration. M. Évariste Ndayishimiye, qui a été élu président, n'a rien changé, ou plutôt a continué sur le chemin de son prédécesseur. Donc c'est comme s'il y avait, il n'y avait pas eu des élections. C'est comme si c'était M. Pierre Nkurunziza qui continuait. Et jusqu'à maintenant, on ne voit pas quelque chose qui a changé.
Merci.
Pour nous, la situation reste la même.
Merci, M. Minani. On va écouter ce qu'en pense Aimé Baguera, porte-parole internationale d'Agathon Rwasa, leader du parti CNL, le Congrès national pour la liberté. Est-ce que vous dites également, vous, M. Baguera, comme M. Minani, que rien n'a changé?
Moi, je dirais que nous avons tout simplement reculé, d'autant plus que et moi, je comprends qu'en démocratie, les civils ne sont pas renvoyés au second plan. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le président est son homme général, il n'a pas démissionné de l'armée. Le premier ministre, il est maréchal. Bon, le ministre de l'Intérieur, c'est un général. Bon, et puis, le ministre dont cette dame, bon, la porte-parole de son ministère, des Affaires étrangères.
Madame Niouba,
oui, son ministre, c'est un ancien et chef de service de renseignement. Donc, il a participé dans des massacres de 2010. Donc, on se rappelle de l'épilation et politique qui s'est rabattue sur les militants du FLN en 2010, après les élections de 2010. Son ministre était super, il était puissant donc, de cette machine à répression de le CNR. Vous voyez, dans l'administration, le président est entouré dans sa présidence par des généraux. Bon, et puis, les administrateurs communaux, ce sont des imbons de la cour, toujours en activité.
La jeunesse du CNDD au pouvoir.
Effectivement, vous allez même voir donc, les gouverneurs. Les gouverneurs de province, ce sont des colonels, ce sont des... c'est l'armée en fait.
Maintenant, donc, ce qui vous inquiète,
la population,
c'est la nomination des responsables de l'armée à des postes civils.
À des postes civils, ce sont des gens qui sont cités par les Nations Unies même dans des exécutions qu'on observe aujourd'hui même.
Vous comprenez Monsieur Maguera, vous parlez de recul. Le représentant du CNRS dit que rien n'a changé. Mais pourtant, le rapport des Nations Unies du 10 novembre dernier était plutôt assez globalement, on va dire, positif sur la situation politique au Burundi.
Moi non plus. Du moins, au sein du CNL, on se demande pourquoi les Nations Unies ils font les yeux doux lorsqu'elle est en contradiction avec sa commission et avec le rapport de la Commission des Nations Unies, qui voit que tout est au rouge. Et d'autant plus que même les résolutions que les Nations Unies ont fait voter ou ont voté de 2015, donc la résolution 2248 et la résolution 2303, donc le régime en place, parce qu'il n'y a rien qui... Bon, le régime n'a pas changé, c'est seulement que vous étiez parti, mais le reste, ce sont les mêmes personnes.
Donc vous dites que quand les Nations Unies affirment dans son rapport qu'il y a une volonté d'ouverture des nouvelles autorités et de nombreux progrès sont réalisés, c'est un rapport qui n'est pas fidèle à la réalité.
C'est pas fidèle à la réalité. Tout simplement, on s'oppose pourquoi les Nations Unies veulent se placer du côté des putschistes, du côté des gens qui font la répression. Mais au lieu de se ranger du côté du peuple, parce que nous avons été aux urnes...
Mais
nous
vous semblez accuser les Nations Unies d'être de connivence avec les autorités, mais vous venez d'entendre Mme Inès Sonia qui également rappelait et qui confirmait que le bureau de l'envoyé spécial, le bureau de l'envoyé spécial va être fermé au 31 décembre prochain. Donc cela veut dire que les relations ne sont pas si bonnes entre les Nations Unies et les autorités de Gitega, non?
En fait, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est cette politique, puisque la réalité, elle est là, et les Nations Unies ont déjà mis sur place une commission d'enquête qui vient de passer 4 ans, qui enquête vraiment d'une façon correcte et qui collecte des données de ce qui se passe sur le terrain. La répression est toujours là.
Merci. Alors, madame, on va revenir à vous, monsieur Maguera, s'il vous plaît. Permettez à madame Niou-Barré de répondre à ces observations, madame. Pas d'avancée pour le CNARED, recul pour le CNL. Que leur répondez-vous?
Bien, nous essayons de faire un petit pas en arrière. De se rappeler le contexte dans lequel le Conseil de sécurité, quand le Conseil de sécurité avait invité le secrétaire général des Nations Unies à déployer une équipe au Burundi pour travailler avec le gouvernement, évidemment avec l'Union africaine et les autres partenaires, c'était pour évaluer la situation et envisager des options afin de régler les problèmes politiques et de sécurité qui étaient au Burundi. Mais il avait été convenu que son bureau fermerait ses portes à la fin du processus électoral de 2020. Jusqu'à présent, ce qui est en train de faire entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies, c'est quelque chose qui avait été convenu depuis longtemps.
D'accord.
Dorénavant. Donc, c'était convenu.
Madame, permettez-moi de vous interrompre et nous allons vous laisser poursuivre tout à l'heure après la pause. Mais le débat, c'est aussi sur nos réseaux sociaux, Edouard Ning. Bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Et nous avons 2 questions des auditeurs.
Et tout de suite après la pub.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Merci de nous suivre. Il est 18h30 à Paris et je vous rappelle que nous débattons ce soir dans le grand rendez-vous de la crise entre les Nations Unies et le gouvernement burundais sur l'avenir du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi avec nos invités Aimé Maguera, porte-parole internationale d'Agathon Rwasa, président du CNL, c'est le Congrès national pour la liberté, il est en ligne de Bruxelles. Également en ligne de Bruxelles, Jean Minani, président du CNARED, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de l'état de droit. C'est en résumé l'opposition en exil. Et en ligne de Bujumbura, la directrice de communication et porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Madame Niumbawe, nous vous avons interrompu tout à l'heure. Vous étiez en train d'expliquer et je propose que vous poursuiviez et concluiez vos propos avant qu'on ne vous pose la question de notre auditeur. Fatima, alors vous disiez que avant que vous aviez l'accord que vous aviez avec le bureau des Nations Unies, c'est que il serait le bureau de l'envoyé spécial sera fermé à la fin du processus électoral intervenu en août dernier.
Effectivement, merci bien madame. Permettez-moi de revenir en arrière et de rappeler que pour le côté du Burundi, ce n'est pas vraiment une crise entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies. Tout ce qu'il ne s'agit que de notifier au secrétaire général des Nations Unies.
Donc vous parlez de divergence alors?
Oui. Ce n'est vraiment pas une crise. Parce que c'est juste une notification que le gouvernement du Burundi fait à l'endroit des Nations Unies. Je dirais que c'est un rappel de ce qui avait été convenu dorénavant. Ce n'est pas vraiment une crise outre mesure.
D'accord.
D'accord. Donc, je vous disais que quand le Conseil de la sécurité avait invité le secrétaire général des Nations Unies à déployer une équipe au Burundi, c'était convenu que juste à la fin du processus électoral, le bureau allait fermer ses portes. Et donc, il ne reste qu'à honorer les engagements puisque les élections collinaires sont les dernières qui ont clôturé le processus électoral au Burundi pour cette année. C'était au mois d'août.
Donc, vous estimez que c'est l'ONU qui ne tient pas ses engagements? Allô, madame?
Oui.
Vous estimez que ce sont les Nations Unies qui ne respectent pas leurs engagements?
C'est juste un rappel aux Nations Unies de ce qui avait été convenu afin de pouvoir honorer les engagements et de fermer, d'agir conséquemment et liquider le bureau.
Mais le secrétaire général de l'ONU préconise plutôt le statu quo, c'est-à-dire le maintien de ce bureau jusqu'en fin 2021. Et ensuite, il y aura des discussions avec vous, les autorités burundaises, pour voir quels mécanismes on pourrait mettre en place pour remplacer ce bureau. Est-ce que vous êtes disposé à discuter de cette suggestion du secrétaire général des Nations Unies?
À l'heure actuelle, le gouvernement du Burundi estime qu'une présence des Nations Unies à caractère politique n'est plus pertinente au pays et n'apporte aucune valeur ajoutée dans la vie quotidienne des citoyens burundais. Aujourd'hui, ce qui est très pertinent pour le Burundi, c'est le développement socio-économique, qui est le seul domaine phare qui a besoin d'un accompagnement de l'État.
Oui, madame Niouba, oui, vous l'avez dit, mais ma question était de savoir, êtes-vous prêt aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères de discuter de cette proposition faite par le secrétaire général des Nations Unies de maintenir ce bureau jusqu'à fin 2021? Ou c'est une... vous l'avez dit, c'est non négociable, mais est-ce que il y a quand même des possibilités d'en discuter?
Je vous ai déjà montré la position du gouvernement, c'est qu'une présence à caractère politique des Nations Unies n'est plus pertinente pour le pays.
Madame, l'autre question, avant que vous n'insistiez sur votre position, je souhaitais que vous réagissiez aux observations faites par le représentant du CNL et du CNARED qui estiment que pour le premier, qu'il s'agit d'un recul, c'est-à-dire le CNL, et que pour le CNARED, l'arrivée du président Ndayishimiye n'a rien changé.
Là, ça sera vraiment un peu difficile de parler au nom du porte-parole du président, de son excellence, le président de la République, puisque moi, je suis en train de parler au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement.
Je vous propose. Vous pensez qu'il y a eu des avancées, que le gouvernement Ndayishimiye est différent de celui de Pierre Dufeu, Pierre Nkurunziza, et en quoi?
Je vous proposerai plutôt de programmer un autre débat avec le porte-parole des institutions de la présidence.
Bon, d'accord, Madame Niou-Bawé, on comprend votre position. On va en venir enfin, Edouard, à cette question de Fatima qui est adressée à notre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Burundi.
Une question qui concerne certainement le ministère des Affaires étrangères, Madame Niou-Bawé. Fatima qui demande, maintenant que vous affirmez qu'il n'y a plus de crise au Burundi, comptez-vous mettre en place une politique pour le retour des exilés politiques au Burundi?
Les Burundais sont en train de retourner au Burundi. Les Burundais qui sont rapatriés à l'extérieur du pays, ils rentrent massivement. Chaque mois, on accueille des Burundais en provenance de la Tanzanie, en provenance du Rwanda. Des Burundais sont en train de se rapatrier avec la collaboration du gouvernement, de l'HCR et des pays hôtes.
Merci, Edouard. Réponse de Madame Inès Sonia Niumbawe. Je vais revenir à nos invités. Monsieur Jean Minani, vous aussi, quand on a écouté Monsieur Maguera tout à l'heure, peut-être que vous aussi, vous avez des griefs contre les Nations Unies, dont vous n'approuvez pas le dernier rapport au Conseil de sécurité. Est-ce que pour autant, vous êtes d'accord avec le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères qui pense que ce bureau n'a plus sa raison d'être aujourd'hui au Burundi?
D'abord, je dois dire que les Nations Unies travaillent ainsi. Ils ont essayé de faire des yeux doux pour calmer, pour ne pas attaquer l'actuel gouvernement du Burundi et lui donner une certaine chance. Mais je pense qu'en dessous,
ils se disent la vérité, que pour le moment, rien n'a changé complètement. Les prisonniers de Nkurunziza restent toujours en prison. Les réfugiés de Nkurunziza restent toujours réfugiés, bien qu'il y a une petite partie qui rentre. On a vu des gens qui rentraient, de véritables retours lorsqu'il y a eu la paix, après les élections de 1993, après l'accord d'Arusha. On a vu des réfugiés qui rentraient réellement. Tous, aujourd'hui, ils ne rentrent qu'à coup de un peu filtrés, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés, pour des élections qui se sont faites convenablement, comme ils le disent, pour un pays où il y a la paix, là, les Burundais n'ont...
Mais il y a aussi des membres du Sénared qui sont rentrés au Burundi.
Ils sont rentrés, c'était un exemple justement parce que on s'était dit, on avait négocié à Nairobi et c'était dans cette ligne-là, on voulait faire un essai pour voir, mais nous voyons quand même ceux qui sont rentrés risquent de retourner en exil aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez répondre à ma question donc, Monsieur Minani? Est-ce que vous êtes d'accord pour le départ, la fermeture du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi ou pas?
Les Nations Unies ont mis d'ailleurs une commission d'enquête sur les droits de l'homme qui ne cesse de donner un rapport très négatif sur la situation du Burundi, qui lise le rapport. Et donc, en même temps, on ne peut pas dire que les choses vont bien lorsque les problèmes restent comme ils étaient. Et les Nations Unies disent, on vous donne une année, on va continuer à observer ce que vous êtes en train de dire. Et le Burundi refuse, le gouvernement burundais refuse.
Donc vous êtes favorable à la prolongation d'un an du bureau de l'envoyé spécial. Même si le rapport que fait l'ONU de la situation au Burundi ne vous satisfait pas?
Moi, je n'ai même pas dit que ça ne me satisfait pas. Ce que les Nations Unies font, c'est contradictoire. Parce qu'il y a d'un côté... la commission d'enquête sur les droits de l'homme qui dit une chose, ce qu'il fallait quand même accepter, et l'autre côté, le secrétaire général qui essaie d'amadouer pour pouvoir les amener à accepter qu'ils restent, mais devant un gouvernement qui continue à suivre ce qu'ils appellent le grand-père ou le grand-papa Nkurunziza, il ne fera pas il n'y a pas d'évolution.
Merci.
Tant qu'il n'y aura pas un dialogue sincère, inclusif, de tous les Burundais et leurs représentants, pour qu'on puisse trouver une solution, une véritable solution au problème que nous avons toujours posé, je ne pense pas que les Burundais se sentiraient en paix.
Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques secondes quelles sont vos demandes au pouvoir du Burundi?
C'est simple. Il faut qu'il y ait assainissement de tous ces problèmes qui se sont passés. Il faut que... mais 2015, c'est terminé. Puisqu'ils en parlent, ils parlent de 2015 que c'est fini. Si 2015 est fini, parce que nous sommes en exil, parce que nous avons refusé un troisième mandat en Nkurunziza, nous sommes descendus dans la rue et appelé la population à descendre dans
d'accord.
la rue.
D'accord. Quelles sont vos exigences? Un retour de tous les exilés politiques au Burundi?
Maintenant, je continue. Maintenant qu'ils disent que tous les problèmes sont finis, 2015 est terminé. Il faut que ça termine, que tout termine. Il faut que tous les réfugiés rentrent dans leur pays. Il faut que tous ceux qui ont été arrêtés pour des manifestations soient libérés. Il faut que tous ceux qui ont refusé le coup de force de Pierre Nkurunziza rentrent dans leur pays, et donc dont nous.
Merci.
Et qu'il y ait une ouverture de l'espace politique que nous réclamions à ce moment-là.
Merci beaucoup.
Et que les choses se normalisent.
Merci
Moi,
beaucoup.
Si j'étais un président élu, j'aurais tout effacé et j'aurais dit 2015, on arrête et on reprend à zéro.
Merci. Monsieur Maguera, ce sont là également vos revendications au niveau du CNL?
Non, on va plus loin. On va plus loin, d'autant plus qu'en 2015, on avait initié le dialogue. Et donc, les IAC avaient initié le dialogue soutenu par les Nations Unies, par l'Union africaine. Et le gouvernement burundais, je crois qu'il faut toujours qu'il soit toujours mis à jour, hein, qu'il se mette toujours toujours à jour, parce que parfois ils oublient pourquoi les Nations Unies n'ont pas pu continuer à travailler dans ce sens-là, parce que le Burundi a toujours joué sur l'OTAN, a toujours refusé même les solutions les plus souples. Donc le Burundi a toujours refusé un dialogue. Et il faut conclure un dialogue, d'autant plus que nous disons que nous avons gagné les élections, donc on ne reconnaît pas.
Vous continuez à remettre en cause la victoire de Évariste Ndayishimiye.
Effectivement, madame. C'est pour cela que ils veulent à tout prix maintenir le pays par la force. C'est ainsi qu'ils ont cette fois-ci mis.
Mais est-ce que vous ne faites pas un peu cavalier seul, là, puisque le processus électoral, d'après le rapport de M. Guterres, s'est globalement bien passé. Et est-ce que vous pensez que ce discours est encore tient encore aujourd'hui?
Non, le peuple est avec nous, le peuple s'est exprimé malgré les conditions dans lesquelles nous avons participé dans les élections. Le peuple s'est exprimé pour le changement. Les Nations Unies.
Donc vous estimez que vous avez gagné, que Agathon Rwasa a gagné cette élection présidentielle?
Effectivement, on ne change pas. Donc nous n'avons pas bougé sur ce point-là. Tout simplement, nous observons, nous continuons à travailler avec notre population, mais nous voulons, si réellement le CNFDD estime qu'il a gagné, qu'on retourne aux urnes. Comme ça, et les Nations Unies, l'Union africaine, la région va nous accompagner dans ce processus électoral, d'autant plus que le CNFDD a toujours joué sur l'OTAN et il a fait échouer les pourparlers qui étaient en cours.
Mais monsieur Maguera, vous, excusez-moi, vous continuez de dire que vous avez gagné les élections, que ce scrutin n'était pas transparent, mais toutes les résolutions contre le Burundi au Conseil de sécurité des Nations Unies ont été bloquées par les vétos russes et chinois. Aujourd'hui, les Nations Unies prennent une position, disons, plus conciliante. Est-ce que vous pensez que votre discours aujourd'hui peut être encore entendu?
En fait, nous travaillons pour le peuple burundais d'abord. Et je crois qu'avec la main tendue des Nations Unies, avec cette politique de main tendue que les Nations Unies ont toujours mise en avant, ça n'a pas donné, ça n'a pas payé. Donc moi, nous croyons que et nous estimons que les Nations Unies devaient passer sur une autre étape pour voir comment elles peuvent accompagner le Burundi, mais pas aller dans le sens où elle veut toujours faire les yeux doux au régime burundais, d'autant
D'accord.
plus que...
Merci. On va revenir à ces yeux doux là que vous ne cessez de répéter avec M. Minani, juste après une courte pause.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et encore une dizaine de minutes pour notre débat sur le Burundi et les Nations Unies qui ne s'entendent pas sur l'avenir du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays. Et je rappelle que ce soir, nous avons en ligne de Bruxelles Jean Minani, président du CNRED, de l'opposition en exil, et Aimé Maguira, porte-parole internationale du CNL, d'Agathon Rwasa. Et en ligne de Bujumbura, la directrice de communication et porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Burundi, Madame Inès Sonia Niumbawe. Madame Niumbawe, vous avez écouté quelques revendications de l'opposition, notamment celle en exil par la voix de Monsieur Minani. Il s'agit entre autres du retour des exilés politiques au Burundi, de la libération des prisonniers détenus depuis la contestation du troisième mandat de Feu Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'il y a est-ce qu'au niveau du gouvernement burundais, il y a des discussions allant dans ce sens?
Bien sûr que oui. En ce qui concerne les réfugiés politiques, je dirais politiques, le gouvernement a toujours pris l'appel, réitéré son appel. Le gouvernement a réitéré l'appel aux concernés de rentrer et de passer le film devant la justice.
Pardon, si j'ai bien compris, madame, vous êtes en train d'affirmer solennellement que les membres du CNRED, par exemple, ont le droit de retourner au Burundi sans être inquiétés? Allô, madame?
Oui.
Donc vous affirmez que les opposants en exil, comme ceux du Sénarède, peuvent rentrer librement au Burundi sans être arrêtés?
Ça dépendrait de leur dossier, puisque ce n'est pas mon travail dans la justice, mais la justice, c'est la justice qui va décider de leur sort.
C'est la justice qui décidera de leur sort.
Oui.
Mais le souhait de M. Minani, c'était qu'on remette tout à plat, parce que la crise s'est passée en 2015 sous Nkurunziza. Il y a un nouveau président. Il a clairement dit que s'il était le président Evariste Ndayishimiye, il remettrait tout à plat et organiserait un dialogue inclusif sans mettre à l'écart aucun acteur politique.
Je vous réitère ma position à propos de la question, puisque comme je vous l'avais suggéré dans un avant, je suggérerais plutôt à votre médium d'inviter le porte-parole du président de la République afin qu'il puisse vous donner beaucoup de plus de clarifications relatives.
Bon, madame, je voudrais peut-être, pour terminer, vous demander cette question sur le sujet qui semble être celui qui vous intéresse, puisque vous ne souhaitez pas vous exprimer sur les autres. Cette divergence, même si vous avez dit qu'il n'y a pas de crise, mais il reste que l'avenir du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies reste en suspens. Quels sont les gestes que vous attendez peut-être des Nations Unies pour envisager une évolution de votre position?
Au nom du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et du développement, nous ne pouvons que réitérer l'annonce du gouvernement du Burundi d'une situation calme et stable qui règne au Burundi. Et donc, nous réitérons l'annonce du gouvernement qui s'est lancé dans une lutte ouverte entre la pauvreté à travers la mise en œuvre du plan national de développement.
Vous l'avez répété, madame, on essaye de comprendre cette position. Votre position a été dite et répétée, mais aujourd'hui, les Nations Unies souhaitent prolonger jusqu'en fin 2021 le mandat de ce bureau. Est-ce qu'il y a possibilité de négociation? Pardon, on me fait signe qu'on a perdu madame Inès Sonia Niumbawe. On va donc poursuivre avec nos deux invités qui restent en espérant qu'on l'aura au moins pour la conclusion de cette émission. Monsieur Maguera, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le déni de la réalité? Est-ce que vous récusez, vous n'êtes pas en train de récuser la réalité qui est que il y a peut-être une évolution de la situation politique au Burundi, comme le disent les Nations Unies.
Vous savez, madame, je crois que vous avez lu entre les lignes et ce qui se passe au Burundi. Si vous analysez les réponses que madame est en train de donner, elle a même peur de s'exprimer alors qu'elle est là comme porte-parole des ministères. Vous comprenez très bien, elle a peur de ne pas trébucher, de ne pas donner une réponse correcte. Parce qu'il y a l'armée qui est derrière elle,
elle a expliqué qu'elle est porte-parole du ministère des Affaires étrangères et pas du gouvernement. Elle n'est compétente que pour parler au nom du ministère des Affaires étrangères et du sujet qui est au centre du débat ce soir.
Bon, une personnalité telle qu'elle, comme telle, comment est-ce que un Burundais qui se trouve au village peut s'exprimer lorsque elle a peur de s'exprimer, alors qu'elle est toujours à côté du ministre? Vous comprenez très bien quelle
est la situation. C'est vous qui dites qu'elle a peur de s'exprimer. Moi, je vous rappelle juste les raisons qu'elle a données pour ne pas se prononcer.
Je suis Burundais, je sais, mais de toute façon, c'est bon. Elle fait son travail et je ne vais pas trop commenter sur son travail. Pour moi,
Vous voulez dire que tous ceux qui sont au Burundi, les militants, par exemple, de votre parti, le CNL, ne sont pas en sécurité, y compris le leader de votre parti, Agathon Rwasa?
Il n'est pas en sécurité, d'autant plus qu'il y a toujours des montages, il y a toujours des tentatives, il y a toujours des assassinats. Les gens sont ramassés un peu partout. Il y a des assassinats presque quotidiens. Vous savez très bien que, et même le rapport des Nations Unies le dit très, très bien. Donc il n'y a pas vraiment de sécurité au pays. Maintenant, on a reculé par rapport de ce qui s'est passé dans l'OTAN. Tout simplement, madame, nous préconisons que les Nations Unies plutôt les Nations Unies devraient aller plus loin. En fait, essayer de du moins d'accompagner le Burundi, mais renforcer son bureau des Nations Unies, rester aux côtés des Burundais. Merci. Non seulement rester aux côtés des Burundais, mais aussi refaire venir le bureau des Nations Unies que le gouvernement burundais a fermé.
Merci.
Et abusivement.
Merci, M. Maguera. Pour votre mot de fin, M. Jean Minani, vous avez répété plusieurs fois le mot « yeux doux » des Nations Unies. Est-ce que vous, si vous ne refusez peut-être pas de voir qu'il y a peut-être en réalité quelque chose qui a changé depuis l'arrivée de Évariste Ndayishimiye?
Non, il n'y a rien qui a changé. M. Évariste Ndayishimiye a continué sur le chemin de M. Pierre Nkurunziza. Et c'est ce que d'ailleurs m'étonne, parce qu'il devait changer. Et il faut qu'il change. Nous avons essayé de lui donner du temps. Nous n'avons rien dit jusqu'à maintenant, presque pas. C'est la première fois d'ailleurs que je parle, parce que nous avions cru qu'il va changer. Mais si on regarde, il n'a pas changé. Et j'admire Mme Niyubawe Inès qui ne veut pas répondre à des questions trop difficiles. Je la comprends très bien parce que Merci. C'est très difficile Merci. De répondre.
Merci beaucoup. En tout cas, elle vient de nous faire dire qu'elle ne souhaite plus prendre la parole et c'est la fin de ce grand rendez-vous.